dare, dicembre abbia scelto a primora vesperale di v'amore dispensata con funesto temporale. Ogni tempesta ne soffria la contrada, nuove piane cumineto dalla neve accampata. C'era un'onda e capre all'amore te condannata.
Aspicera lo pastore, corse verdi l'alta sera, dai orghe risuonava un ruggio a fiumara. Quando chiama destino, non c'è forza chi ubara.
Chers auditeurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Hilaire, bonsoir.
Bonsoir, Marie-Bonne.
Nous attendons...
Il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendu.
Oui, oui, oui.
Qu'on ne vous a pas vu.
C'est une fidélité assez espacée, mais...
Non, mais c'est très bien.
Nous attendons Jacques.
Oui, et dans un bus.
Oui, voilà.
En souffrance, quelque part, sous la pluie.
De quoi allez-vous nous parler, Hilaire?
De l'actualité.
Oui, mais encore.
Et elle est très riche en politique nationale et en politique internationale, bien sûr. Et là, je voudrais, moi, aborder, et c'est, Jacques n'est pas là, mais on va attendre, on va, tout à l'heure, il va nous donner son avis. Bon, il y a un énorme problème en France qui se pose, on s'aperçoit que la justice, ça ne va pas du tout.
Ah.
Alors, tout le monde a son explication, et moi, je veux bien que toutes les explications soient audibles, mais il y a un vrai problème. Alors, j'attends Jacques pour aller au fond de la question... J'allais presque dire ontologique. Bon, on a parlé des moyens, il n'y a pas de moyens. On s'est rendu compte qu'il y avait des complicités. Et alors ça, c'est infiniment plus grave. Et je pense qu'il y a une complicité dans beaucoup de choses, dans le narcotrafic. On commence à le savoir et à le comprendre, comme dans tous les États pourris. En France, il n'y a plus de moralité publique. Ce n'est pas la laïcité qui constitue une moralité publique. Bon, et donc il y a une complicité, y compris dans le pédocriminel, ça ne se voit que trop. Lorsque des magistrats relâchent des individus qui ont fait des saletés sur des petites filles, il y a quelque chose qui ne tourne pas au Royaume de France.
Oui, c'est pas le manque de place en prison.
Non. Puis de toute façon, c'est autre chose.
Oui, bien sûr.
Il y a la question des places de prison, mais ça, c'est des questions techniques. Bon, il y a aussi la question de la formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un juge aujourd'hui ? Est-ce qu'il est formé comme juge ? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un défaut de formation qui est terrible, parce qu'il n'y a plus de philosophie de l'État. Il faut aller au fond des problèmes. Il n'y a plus de philosophie de l'État, on ne sait plus ce que c'est que la justice. Et parce que, pour tout le monde, du moment que les droits de l'homme sont appliqués, les droits de l'homme, c'est de l'abstraction... Donc, à partir d'un certain moment, on se demande, mais alors du coup, le criminel, il est aussi intéressant que la victime. Bon, et ben c'est les conséquences de nos principes constitutionnels. Bon, la dignité éminente de l'homme. Voilà, bon.
Depuis une trentaine d'années, à peu près.
Oui, puis même, ça devient la philosophie de l'Église.
Oui.
Non, je suis désolé, il y a une hiérarchie dans les... Et surtout, il y a des questions de fond qui se posent en fonction de la vérité. Bon, alors, il y a la question de l'indépendance, mais là, j'attends notre ami Jacques, parce que je ne crois pas du tout que cette autorité judiciaire qui se prétend indépendante et qui de fait n'importe quoi et elle ne peut pas recevoir de directive, paraît-il, du garde des Sceaux, il n'y a pas de politique pénale, mais c'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'en réalité, concrètement, le juge est remis à son propre jugement. Or, il n'y a pas plus grand esclavage que d'être tributaire de son propre jugement, contrairement à ce qu'on croit à la théorie habituelle de M. Rousseau, dont on n'a rien à faire, qui est notre théorie constitutionnelle. C'est absurde. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, il y a des choses justes, il y a des choses injustes. Et c'est indépendamment de nous. Donc, ce n'est pas au magistrat à décider lui-même dans sa, de ce qui relève du juste et de l'injuste.
C'est
et puis, parce que,
l'idéologie.
Surtout, il y a une question d'interprétation. Et puis, je pense, il y a la question du grand juge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité qui domine l'État, qui était l'équivalent de l'autorité royale. Autrefois, les juges dépendaient, recevaient leur pouvoir par délégation du roi. Alors on dit aujourd'hui la délégation du peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple? C'est une abstraction. S'en a beau l'écrire avec un grand P. Et qu'est-ce que c'est? C'est une majorité. Et là, je viens sur un sujet qui moi, m'est cher, c'est qu'est-ce que c'est que les lois? Voter au nom du peuple. Tout le monde sait comment elles sont votées, ces lois. En réalité, ce sont des fonctionnaires qui présentent des textes devant des députés. Ces députés n'ont aucune compétence. Pour la plupart d'entre eux, il y en a quelques-uns qui sont un peu compétents. Alors, ils se réunissent en commission. Moi, je veux bien croire qu'ils font du travail, mais c'est... Et surtout, quel est leur point de vue? Ils ne sont pas du tout formés pour être législateurs. Là, la bande des 500 députés, un peu plus, mais il n'y en a aucun d'entre eux qui a reçu une véritable formation pour être législateur. Il y en a peut-être 4 ou 5 là-dedans qui ont une réelle culture historique,
c'est
suffisante,
depuis,
juridique.
C'est depuis Macron ou avant?
Non, avant, il y avait des parlementaires qui avaient un peu plus de formation.
Oui, le profil des députés.
Non, mais ça a toujours été le cas. Et de toute façon, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas ni la vérité ni la justice qui les retient. C'est l'intérêt du moment. Voilà, c'est tout. Donc les lois, en elles-mêmes, deviennent des textes d'abord abscons, et puis surtout profondément absurdes. Ouais. Et donc, il n'y a pas de véritable législation. Les juges appliquent des lois qui sont contradictoires et en fonction desquelles, ils sont amenés à choisir. Et ils choisissent évidemment ce qui correspond à leur point de vue à eux. C'est-à-dire que ça devient un pouvoir idéologique.
Teinté d'idéologie, oui.
Oui, c'est un pouvoir idéologique. Ce n'est plus un pouvoir, rigoureusement... juste, légal et intellectuellement vrai. C'est terrible.
De bon sens.
Mais c'est terrible parce qu'on est là, on révère le pouvoir législatif, mais ce pouvoir législatif tel qu'il est composé en France, parce que la France a quand même vraiment une spécificité avec des principes qui ont un caractère tous absolu, ce qui n'est pas le cas tout à fait dans les autres dites démocraties où ce caractère est tempéré par les nécessités du moment, et on voit bien que tout est contrebalancé. Il y a des contre-pouvoirs. En France, une loi est par nature absolue, c'est-à-dire du moment qu'elle a été votée, que c'est le peuple qui l'a votée, elle est la vérité. Elle domine tout. Elle domine y compris la conviction religieuse. Et même les démocrates chrétiens se sont rangés à cette idée. Et j'allais dire, même notre souverain pontife dans sa dernière encyclique. Du moment que c'est démocratique, c'est la vérité, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais attendez, la démocratie ne va pas dépendre demain de Mélenchon et de sa bande, si sa bande a la majorité. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, c'est terrible. Notre ami Jacques n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ces lois? Voilà, on fait une loi pour s'occuper des enfants. Il faut sauver les enfants. Bon, alors en ce moment, ils carburent sur le sujet. Tout le monde s'y met, chacun y va de sa proposition. Bon. Et ce sont ces mêmes législateurs qui ont décidé de constitutionnaliser l'avortement.
Oui.
Bon. C'est-à-dire que pour eux, un enfant à naître est un enfant qui peut être tué. À la limite, qui doit être tué. Au nom du droit de je ne sais pas quoi, parce que ce n'est même pas les mères qui décident. En réalité, dans cette affaire-là, tout le monde sait très bien que c'est généralement les hommes qui se débarrassent du problème. Voilà. Et les femmes subissent. Mais à l'heure actuelle, on joue des femmes dans tous les domaines pour essayer de couvrir les turpitudes des hommes. C'est ça qui est incroyable. Et donc, sauver les enfants. Mais pourquoi va-t-on sauver un enfant de 1 an, si 4 mois avant, ou 8 mois avant, on est dans l'état de le tuer. Enfin, c'est absolument mais aberrant. Et constitutionnellement, ça veut dire républicainement.
Ouais. Bon,
et Macron va recevoir le Saint-Père. Et il va lui taper sur le ventre, comme il a l'habitude de faire, en le tutoyant.
Sur l'épaule.
Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il est responsable de la mort de chaque mois, de chaque année, de 200 000 à 300 000 gosses qui sont tués, qui sont aspirés, qui sont disloqués, qui sont éventrés, qui sont... Ah ben voilà, notre ami Jacques arrive.
Bonjour,
alors
Jacques.
Je suis en train de tempêter, alors il est grand temps que vous arriviez pour me modérer.
Oui.
Oui, moi aussi. Oui, Hilaire, vous poursuivez.
Alors oui, je parlais des lois. Et ensuite, nous reviendrons, parce que je pose la question de la justice aujourd'hui, qui est une question qui vous intéresse au premier chef, mon cher Jacques.
Oui, c'est vrai.
Et donc, je parlais des lois, parce que pour parler de la justice et des magistrats, je souhaitais beaucoup que vous fussiez présent, que vous soyez là, ce qui est le cas. Et alors, j'ai parlé des lois, votées par qui, comment, quand on sait comment c'est voté. Et qu'est-ce que c'est que ces lois? Là, on est en train de bâtir une loi pour sauver les enfants. Et ce sont les mêmes législateurs qui ont constitutionnalisé l'avortement.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils se sont autorisés le droit républicainement de les tuer, de les aspirer, de les morceler, de les jeter au four. Et c'est les mêmes. Ça n'a plus de signification.
Non, parce que en fait, d'abord je salue mes auditeurs.
Oui.
Et je les remercie beaucoup d'être à l'écoute de Radio Courtoisie. Je salue Marie-Vonne et je suis heureux de la revoir parmi nous. Hilaire, je suis heureux tout le temps, mais il est tout le temps là. Et puis, je vais répondre à votre question. En fait, la justice. C'est un peu comme la Corse à laquelle je suis aussi attaché que la justice.
On va en parler tout à l'heure.
Parce que mon ami Jean-Luc de Carbuccia, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, qui était un éditeur des éditions de Paris, disait avec juste raison, la Corse c'est le miroir grossissant et réfléchissant du continent. La justice est un peu le miroir réfléchissant et grossissant de nos malheurs.
Oui.
Donc, au bout d'un moment, tout d'un coup, on découvre, à propos de l'assassinat de cette petite fille d'Angers, on découvre toute une série de ce qu'on appelle publiquement des dysfonctionnements, qui sont en fait des grosses erreurs.
Oui, oui.
Mais ça, c'est, d'habitude, c'est enfoui, et personne n'en parle, bon, on met les problèmes sous le tapis. Dans le petit livre de Rouge de Mao, qui faisait florès au temps de ma jeunesse, il y avait une formule qui n'était pas mauvaise de Mao qui disait « Mettez les problèmes sur la table, ne les laissez pas sous le tapis.
Mmh. »
Et en fait, c'était pour l'organisation du parti maoïste. Mais pour n'importe quelle organisation, c'est assez vrai. Et là, on les mettait sous le tapis, puis d'un coup, ça sort. Parce que ça ne peut pas ne pas sortir. Et ça sort dans un cas dramatique, extrême. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas continuer comme ça. Maurras parle dans un de ses articles anciens du charme mérovingien de la démocratie.
Oui.
Mais on devrait parler du charme mérovingien de la justice. Enfin, quand vous pensez qu'il faut presque 8 jours à un dossier pour aller de Auch à Toulouse ou de Toulouse à Auch, alors que, bon, en 2 clics, il y est.
Oui.
Mais alors, s'il est trop lourd pour l'informatique, on peut envoyer un motard.
Oui, et qu'une plainte déposée il y a 8 mois ou un an,
oui, n'a
toujours pas été instruite.
Quand on a besoin, il y a un coup de téléphone.
Un coup de téléphone.
Quand on a besoin de transporter un dossier urgent dans une affaire politique, il y a toujours, on trouve toujours un motard pour le faire.
Bah, bon. Pour Fillon, c'est comme ça que ça s'est passé.
Ah, oui.
Et quand la justice veut se bouger, elle se bouge très vite. Hein. Donc, là, c'est vraiment... le laisser pour compte du pauvre.
D'autant oui, plus oui. que cette même juridiction d'Auch s'est beaucoup occupée des agriculteurs au moment où ils ont protesté contre le Mercosur.
Mais quand on a...
Et quand ils ont protesté pour les vaccinations de leurs troupeaux et la mise à bas de leurs troupeaux.
De toute façon, quand vous avez une... C'est ça qui est terrible, c'est que quand moi je l'ai vu dans beaucoup d'affaires, quand vous n'arrivez pas à faire exécuter une décision, vous mobilisez la presse et éventuellement la foule, si vous pouvez, en même temps que la presse. Ouais. Et tout d'un coup, vous apercevez que la décision est exécutée.
Oui.
Et on s'aperçoit qu'on peut l'exécuter. Mais si on n'a pas tout cet appui, ben elle ne l'est pas. Donc en fait, le pouvoir, la justice appartient aujourd'hui aux puissants. Ce qui a toujours été... ce qui a toujours été d'une certaine façon. Mais ce qui
oui,
éclate
mais plus,
un peu plus,
encore plus aujourd'hui, ouais. est couvert de principes qui sont faux, qui sont absurdes.
Alors, on peut dire à la justice ce que Bainville disait de l'état général des choses, tout a toujours très mal marché.
Oui. Oui.
Et la justice a toujours très mal marché. Que ce soit à Athènes pour Socrate,
oui.
que ce soit à Jérusalem pour notre Seigneur, que ce soit à Rouen pour Jeanne. Bon, on voit tout le temps... enfin, les erreurs judiciaires sont énormes, colossales. Mais à côté de ces erreurs colossales, de ces monstruosités, il y a un courant normal de la justice qui, normalement, se passe comme il faut. C'est-à-dire que les juges sont là pour dire « ce champ est à Paul ou il est à Pierre ?» Ben, il est à Paul, finalement, après étude du dossier. Donc, ben voilà, Paul va avoir son champ. Et
est-ce que Paul avait le droit de tuer Pierre
pour récupérer son
champ oui.
Et si on n'a pas les... si, moi, je me souviens dans mon village, un jour à la Saint-Antoine, qui est une grande fête, à la procession, il y a une jeune femme qui a regardé d'un peu trop près, ou d'une façon un peu trop ardente, un jeune homme qui lui a rendu le regard. Et le mari de cette jeune femme... est parti chercher son fusil.
Oui, ça, c'est la Corse.
Ah, oui. Et sa mère lui a dit, non, prends pas le fusil, va chez l'avocat.
Ah.
Et donc, il est allé chez l'avocat. Elle m'a dit quand même, je l'ai envoyé chez l'avocat. Et donc, c'était une façon de désarmer le fusil. Et c'est ce à quoi sert normalement la justice.
Et oui, l'état de droit.
Et la voie de droit, elle emporte sur la voie de fait. Saint-Louis disait, bataille n'est pas voie de droit.
Mais alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'apparaît, après avoir lu un peu tous les articles de la presse, c'est que ce n'est pas simplement un manque de moyens, il y a certainement cela, je pense, mais il y a aussi une sorte de complicité, c'est-à-dire une acquisition de l'esprit, enfin, l'esprit adhère, là, on l'a vu récemment dans l'affaire de Paris, là, du périscolaire. Bon, un garçon d'une trentaine d'années a quand même commis 9 actes absolument répréhensibles sur des fillettes. Ben, les juges l'ont pratiquement absous. Il est ressorti sans rien. Et les juges ont argumenté pour expliquer que bon, ben, que c'était dans le fond que c'était pas grave, que il n'avait pas une intention absolument perverse.
C'était
moi, je
purement
me demande
affectif.
Quand même s'il n'y a pas à l'heure actuelle, à tous les niveaux de l'État, que ce soit pour le narcotrafic, que ce soit pour la pédocriminalité, que ce soit pour une sexualité complètement libérée, étant donné ce que sont maintenant devenus les réseaux sociaux, tout le monde sait que la France, à l'heure actuelle... aussi bien pour ce qui est du trafic, trafic de stupéfiants que pour les images pornographiques, la France est en très très haute position. Elle est parmi les 5-6 pays du monde les plus ravagées.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore remis de ce qu'on pourrait appeler la doctrine Badinter, qui a infesté la justice à partir des années 80, en fait, qui était en fait ce que Jean-Marie Le Pen appelait une formule un peu brutale, mais très vraie, la banditophilie.
Oui, c'est ça.
Et nous sommes devenus banditophiles.
Oui.
Et en fait, l'idée était que finalement, le délinquant, le bandit, est supérieur à l'autre, à celui qui le poursuit, qui est toujours en état de mauvaise conscience.
Et en vertu du principe absurde de l'éminente dignité de la...
C'est-à-dire qu'on
personne humaine,
on transpose sur le bandit, ou sur la personne mise en examen, ou sur la personne accusée au cours d'assises, ou prévenue devant le tribunal correctionnel, le déploiement de défense de la personne humaine. Mais on oublie quand même, on oublie l'élément
essentiel. Quand il s'agit de quelqu'un qu'on veut broyer, là, ça n'existe
ça
plus.
Ça n'existe plus.
Donc c'est quand même à géométrie variable.
Ah ben exactement, il y a des domaines dans lesquels il suffit que vous soyez montré du doigt pour être coupable.
Oui.
Et puis d'autres, vous avez beau avoir des preuves certaines de culpabilité, on vous excuse parce que le cours du temps, parce que on ne sait pas, parce que il faut être indulgent vis-à-vis de la personne.
Vous pensez qu'il y a... je pense que de fait, il y a un manque de moyens. Il m'est arrivé d'aller arpenter les tribunaux et de fait, il y a quelquefois un côté, tellement obsolète.
Les commissariats également.
Et les commissariats également.
Oui, c'est vrai. Alors, moi, quand j'ai entendu M. Macron dire qu'on ne me dise pas que ça manque de moyens,
c'est une vétusté.
C'est évident. Mais ça manque surtout d'une volonté
d'une direction.
Oui.
C'est ça, je suis d'accord avec vous.
En fait, le président de la République, selon la Constitution, est président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, selon une règle non écrite, mais qui soi-disant est très vraie, et ce n'est pas vrai d'ailleurs, elle n'est pas vraie, elle est fausse, c'est une hypocrisie, le pouvoir ne s'occupe pas de la justice et ne veut pas s'en occuper, alors qu'il s'en occupe énormément et qu'il surveille beaucoup. Mais il ne s'en occupe pas bien. Il s'en occupe pour que la justice ne l'ennuie pas en poursuivant des hommes politiques qui sont ses amis et lui rendre des services en poursuivant des hommes politiques qui sont ses ennemis.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça, en fait. Mais ça, c'est la basse intervention du pouvoir dans les œuvres de justice. Elle n'est pas très fréquente, puis elle ne vise pas la grande majorité du justiciable. La grande majorité des justiciables souffrent de la lenteur de la justice parce qu'elle manque de moyens d'un côté et parce qu'aussi il n'y a pas cette volonté au sommet qui se transmet jusque dans les derniers rois de la justice où on dit c'est le grand devoir. C'est le grand devoir. Vous avez dans un poème très beau de Maurras, le mystère d'Ulysse, à la fin quand Ulysse revient à Ithaque, il le décrit montant au bout de l'île vers la table, avec sa crosse à clous d'or, vers la table de marbre à la pointe du port. Là, les sujets d'Ulysse, en retour de l'impôt, reçoivent la justice. Et ça, c'est la règle absolue. En retour de l'État a le droit de nous prélever des impôts, mais il a le devoir de nous rendre la justice. Et quand le Français, le citoyen, le sujet, n'importe qui du pouvoir qui paye l'impôt et sent qu'il n'y a pas la justice, il a un sentiment immense de frustration et d'injustice au sens fort du terme. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la désaffection des Français à l'égard des institutions. Et ça vient principalement de ce que ils n'ont plus aucune confiance dans la justice.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de rendre la justice au nom du peuple, on sait très bien, mais le peuple, c'est avec un P majuscule, c'est une entité. Autrefois, la justice était dépendante d'une souveraineté qui était celle du souverain. Cette prétendue indépendance des juges est terrible parce qu'en réalité, ils sont en face d'eux-mêmes Et quel est le moteur décisif? C'est leur conviction, c'est leur idéologie. C'est
oui, mais en fait, quand c'est vrai que...
Et le peuple, c'est une couverture.
Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Oui. Mais le justiciable s'en moque, hein, il s'en fout.
Bien sûr.
Mais seulement quand il arrive dans une salle d'audience, et que cette salle d'audience n'est pas trop mal constituée, même quand elle est mal construite, comme ça arrive beaucoup dans une nouvelle salle d'audience, la présence de trois magistrats, même d'un seul magistrat en robe, qui fait régner l'ordre, les impressionne énormément. Et moi, je me souviens, à Versailles, il y avait un désordre terrible parce qu'il y avait une bande de jeunes qui avaient envahi l'audience pour soutenir un de leurs amis. Et est arrivée une petite jeune femme magistrate, présidente, qui d'un ton très déterminé a dit « Silence !» Et sinon, je fais évacuer la salle, garde, mettez-vous en position. Eh bien, tout le monde s'est tu. Ouais. Et on a senti passer un frisson et ils se sont dit « Ouh là là !» Là, il y a quelqu'un.
Oui. L'autorité.
Et une autorité. Et donc, en fait, le magistrat, parce qu'il est magistrat, en position de juge, a une autorité qu'on voit très bien dans l'Évangile quand Jésus dit à Pilate « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si ça avait été donné d'en haut. » Ça lui était donné d'en haut par César, mais ça lui était d'en haut aussi par Dieu. Et en fait, le juge a toujours, même le mauvais juge, même Cochon face à Jeanne, il a toujours une espèce de caractère sacré dans son autorité. Et ça, si les juges s'en rendent compte, s'en prennent conscience, à ce moment-là, ils se disent qu'ils ont un travail énorme à faire et que c'est très, très attendu par les justiciables, justement, qui se disent c'est le dernier recours que j'ai. Est-ce qu'ils vont me dire quelque chose ?
Donc, il y a bien une question, j'allais dire, d'ordre moral, d'ordre philosophique, on va dire même, ou d'ordre social. Il faut que les gens aient conscience de leur responsabilité. Si ça n'existe pas, il n'y a plus de justice.
Oui, en fait, il ne faudrait pas grand-chose, mais un pouvoir, une autorité supérieure, c'est-à-dire celle du président de la République et celle du gouvernement, mais surtout celle du président de la République, en tant que chef des juges, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, qui les conforte.
Oui.
Dans cette position et qui les rappelle leurs devoirs. Mais ça, aujourd'hui, ça n'existe absolument pas. Je ne sais même pas si ce que je suis en train de dire là est audible pour nos hommes politiques.
Oui.
Je pense que c'est audible pour nos magistrats parce qu'ils le savent, ils le sentent. Et même quand ils ne le disent pas explicitement, comme je le dis, ils le sentent quand même parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le sentir. Et je me souviens d'un jour, c'était après mai 68, j'étais devant un tribunal d'instance, ancienne justice de paix en Lozère.
Oui.
Et devant un juge à cheveux très longs, qui était un 68-art. Et alors, il y avait... D'abord, il avait instauré une règle. Les avocats parleront en dernier, parce que je fais d'abord passer les justiciables. Mais les justiciables s'engueulaient en patois. Donc, ils ne comprenaient rien. Donc, finalement, il a dit, bon, je vais appeler les avocats qui me débrouillent, tout ça. Donc, il a appelé les avocats. Et moi, j'arrive, c'était une question de droit de propriété. Et il me dit, que pensez-vous, mon cher maître, de la fonction sociale du droit de propriété ? Je lui dis, monsieur le président, c'est une question fort intéressante, mais ce n'est pas celle qui vous est posée ici. Celle qui vous est posée ici, c'est de savoir à qui est ce champ et où se borde-t-il. Voilà. Et c'est ça. Et en fait, la réalité du terrain, c'est le cas de le dire, le sortait de ces chimères philosophiques et soi-disant philosophiques, oui. Et ces abstractions, et le mettait en face d'une réalité qu'il était obligé de voir et sur laquelle il était obligé de trancher. Donc ce garçon qui était philosophiquement hostile au droit de propriété a passé sa vie, sa jeune vie de magistrat, à rendre des décisions
de justice sur le droit de propriété.
Sur le droit de propriété.
Et les partager,
Pierre et Paul qui s'engueulaient en patois. Bon. Et donc, finalement, ça l'a remis dans son véritable chemin. Et je pense que les hommes de loi, les magistrats, comme les avocats d'ailleurs, s'ils prenaient conscience de ce qu'ils ont à faire en devoir d'État, serait intellectuellement, philosophiquement et politiquement extrêmement sage. Je disais souvent à mes jeunes auditeurs quand j'étais professeur à l'Institut d'études judiciaires, vous savez, si quand vous défendez une thèse philosophique, vous aviez la même rigueur quand vous défendez une affaire devant le tribunal, et que vous imaginez qu'au moment où vous sortez un argument qui vous paraît génial, il y a un magistrat qui vous dit « Vous avez la preuve, maître, oui, dans votre dossier
oui. ?»
Eh bien, vous ne sortiriez pas l'argument, parce que vous sentirez que vous n'avez pas la preuve. Donc, en fait, soyez dans la vie démocratique, dans la vie philosophique, dans la vie intellectuelle, ce que vous devez être, ce que vous savez que vous devez être dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire n'avancez que ce que vous avez de certain. Mon ami et confrère, le bâtonnier Charia Bournazel, ne m'en voudra pas si je dis que ce n'est pas un monstre de dévotion. Et il est dans son bureau, il avait un immense tableau où on voit saint Thomas mettant sa main dans les plaies de notre Seigneur au lendemain de la résurrection. Et je lui disais, mais chapeau, dans votre bureau, c'est impressionnant ce tableau. Il me dit, mais moi je dis ça pour mes clients, vous savez, j'en dis. De la nécessité de la preuve.
Oui.
et en fait, c'est une très grande leçon.
Oui.
Et
le doute de Thomas.
Le doute de Thomas
sert de fondement à notre foi.
Sert de fondement à notre foi et s'éteint devant la preuve.
Oui.
Et je me souviens du chanoine Magnot qui avait un bel accent de Montauban. Et quand il prêchait, il disait. J'aime beaucoup saint Thomas parce qu'il ne marche pas facilement et nous non plus, nous ne marchons pas facilement. Bon, donc en fait, il faut nous donner des éléments de preuve. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et nous, avocats, nous le vivons dans notre métier. Et les juges le vivent exactement parce qu'ils ont cet instinct de juge quand ils entendent un avocat faire une démonstration brillante. Tout d'un coup, il interrompt en disant, maître, ce que vous êtes en train de dire, vous l'avez dans votre dossier ? Alors on répond, oui, monsieur le président, j'ai un code 50. Vous pouvez nous la lire ? Puis finalement, elle n'est pas dans la Côte 50. Et là, on est très embêtés. Donc, voilà. Et c'est l'intuition du juge. Et je pense que ce métier, qui n'est pas un métier, qui est une vraie profession, cette profession peut être extrêmement, et est extrêmement importante pour l'État. Vous savez, dans ses mémoires, Louis XIV raconte que quand il est arrivé, les mémoires qu'il écrit ou qu'il dicte pour son fils, que quand il est arrivé en 1761, qu'il a pris, comme on dit, le pouvoir, et qu'il a trouvé un royaume dans un état, après les deux frondes, dans un état épouvantable.
Oui. Le grand jour d'Auvergne.
Et il dit la justice, qui était le premier instrument pour tout réformer, était la première à devoir être réformée.
Oui.
On rendait un peu partout des arrêts en mon nom qui étaient complètement contradictoires. Et donc, il a pris les choses en main. Il a fait les grands jours d'Auvergne, il a fait... Bon, donc... Mais il a pris les choses en main.
Oui.
Se souvenant que si ses ancêtres l'avaient emporté sur d'autres autorités, c'est parce qu'on disait que s'en remettre royale. Au roi de France, c'était s'en remettre à un juste juge. Mmh. Et donc ça l'emportait sur les juridictions ecclésiastiques, sur les juridictions seigneuriales, sur les juridictions communales, sur toutes les formes de juridictions qui étaient plus ou moins biaisées par des intérêts particuliers, alors que là, on avait affaire à quelqu'un qui avait en vue uniquement la justice. Et donc, c'est ce sens de la justice qui est à la base, au fondement de l'autorité de l'État, en France du moins. C'est pas la puissance, ni la violence, ni la force, c'est d'abord ça. Et s'il y a une force, elle est au service de la justice. Bon, c'est pour que la justice soit exécutée. Donc, c'est pour ça qu'il y a le glaive à côté de la main de justice. Parce que s'il n'y a pas le glaive, effectivement, la main de justice, elle est un peu vaine. Mais ça, aujourd'hui, on a le pouvoir à le glaive. Mais en fait, il faut rendre. C'est pas très compliqué. Parce que, comme je l'ai dit, les juges sont spontanément attachés à faire leur métier. Si on leur demande et si on leur dit qu'il faut le faire. Mais il manque une volonté politique au sommet.
Ah oui.
Parfait, je suis sûr que ça va passionner nos...
Ben, je ne sais pas si ça va passionner,
si,
en tout cas c'est ma conviction profonde, et c'est le fruit de mon expérience de plus de 60 ans de barre.
Et on le sent, et c'est une réponse extrêmement posée, extrêmement calme, mais extrêmement profonde. Et moi, je crois en plus qu'il y a cette affaire de comment dire, morale, de déviation morale qui se trouve à peu près partout, mais qui doit pouvoir se redresser.
C'est... Oui, ben elle existe. Elle existe, mais elle peut se redresser parce que là, c'est le rôle des avocats dans les audiences. Quand on sent qu'il y a une tendance qui va dans ce sens-là, c'est de redresser, de dire au juge, écoutez, ça existe dans le monde contemporain, ça existe dans les journaux, ça existe à la radio, à la télévision, ça existe dans les réseaux sociaux, mais ça existe, ça ne doit pas exister dans les tribunaux et dans les cours de justice. Ici, vous rendez à chacun ce qui lui est dû, et vous n'écoutez pas ça, vous n'avez pas à vous déterminer en fonction de cela. Alors, quand on dit que le juge est indépendant, c'est vrai, mais comme disait mon ami Henri Glaise, qui était un très grand magistrat, maintenant il est à la retraite, mais l'indépendance est aussi l'indépendance à l'égard de ses propres passions.
Et oui, bien sûr, bien sûr.
Il faut la travailler, c'est un sacerdoce.
Oui, oui, bien sûr.
Une indépendance à l'égard de son épouse ou de son époux, à l'égard de ses amis, à l'égard de ses camarades, à l'égard de ceux qui vont vous dire « T'as rendu ce jugement dans cette direction, mais c'est bizarre, comment ça fait, pourquoi ça fait ça ?» En se disant « Mais j'ai pas justifié vis-à-vis de lui, j'ai justifié vis-à-vis des justiciables dans les attendus de mon jugement. Bon. » Et donc, il y a un vrai devoir du magistrat de se mettre à l'écart. C'est pour ça qu'il avait un devoir de réserve, dont on s'est beaucoup moqué. Mais ce qui faisait que, dans des provinces ou dans des petites villes, il était comme un peu à l'écart. Il ne pouvait pas aller jouer au poker avec tout le monde parce que on ne pouvait pas penser que la justice se faisait autour d'un tapis vert les joueurs. Il fallait... Bon, alors peut-être y aller, et puis la justice ne se faisait pas là. Mais enfin, ça peut... il ne faut pas laisser un soupçon. C'est comme la femme de César, elle doit être irréprochable. Elle est au-dessus de tout soupçon.
Alors, je crois qu'il y a des auditeurs qui font connaître leurs sentiments.
Oui, oui, oui. Eh bien, nous sommes donc à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de Jacques Trémollet de Villers. Et nous parlons de la justice. On va peut-être empiéter aussi sur l'actualité après.
Oui, on va revenir.
Voilà. Quelques messages. Donc, un auditeur, un requiem contre l'avortement. Parfait. Mention des 250 000 naissances empêchées annuellement. Parfait encore. Mais n'oublions pas, en outre, les millions de naissances empêchées du fait de l'usage de la pilule abortive. Merci pour cette émission. Nous en avons parlé un petit peu au début.
Merci à l'auditeur.
Oui. Donc, une auditrice. Et si le prévenu de Florence était innocent du meurtre, la présomption d'innocence a été complètement oubliée dans cette tragédie.
Oui, enfin, je pense.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est complètement oubliée, mais elle existe, la présomption d'innocence. Mais je ne connais pas suffisamment le dossier pour dire qu'elle a été oubliée. Mais ce qu'on voit, c'est que, de toutes les façons, cette affaire ne pouvait pas traîner autant avant de venir à l'audience. Ce n'est pas possible.
Oui, c'est ça. Et puis, alors, cet auditeur, pensez-vous que l'ouvrage de Roland Dumas intitulé « Les avocats », paru en 1977, reflète correctement cette profession ? C'est à votre attention, Jacques.
Oui, je suis incapable de le dire parce que je n'ai pas lu cet ouvrage de Roland Dumas. Donc, je ne peux pas répondre, je n'ai pas lu l'ouvrage.
Eh bien, s'il est toujours édité, ça sera peut-être un cadeau à vous faire.
Que Roland Dumas, oui, qui a été président du Conseil constitutionnel, a avoué avoir convaincu ses collègues de reconnaître les comptes de campagne de Jacques Chirac et de Balladur, qui étaient remplis d'inexactitudes et d'irrégularités. Et il l'a fait pour maintenir l'ordre républicain. Il l'a expliqué, il s'en est expliqué. Et évidemment, il n'y a pas eu de poursuite concernant les comptes de campagne de Jacques Chirac et de Balladur, de même que comment s'appelle-t-il, Fabius, Laurent Fabius, qui était président du Conseil constitutionnel sous Hollande, n'a pas retenu le fait qu'il y a eu des dénonciations faites par des journalistes américains à propos du trésorier de campagne de Hollande, qui était un monsieur précisément dans les réseaux plus ou moins pédocriminels et qui avait des comptes offshore alors qu'il était le trésorier de campagne de Hollande, et il semble bien qu'il ait monnayé en particulier la fameuse loi dite du mariage pour tous contre le fait qu'il apportait de l'argent de ce côté-là. Ben, il n'y a jamais rien eu. C'est extraordinaire.
C'est des justices à plusieurs vitesses.
Oui. Cette façon de qu'a la République de se couvrir perpétuellement. Moi, je pense que l'origine des lois est mauvaise aussi. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une loi aujourd'hui ? C'est voté par 500 gars, enfin, c'est un peu plus de 500. Mais qui n'y connaissent rien. Enfin,
et puis souvent, ils ne sont pas là. Hein.
Et en plus de ça, ils ne sont pas là. Alors là, on fait des lois en ce moment, coup, sur l'immigration, sur la délinquance, maintenant sur la protection des mineurs, sur les questions sexuelles. Mais qu'est-ce que c'est c'est une avalanche de lois qui viennent de l'actualité. Sous prétexte d'urgence.
Ponctuellement.
Et ponctuellement.
Vous savez, l'histoire nous apprend beaucoup de choses là-dessus. Oui. Lorsqu'il y a eu une espèce d'inflation de duel en France, oui. À tel point que le sang coulait partout, les jeunes nobles se battaient en duel pour un oui, pour un non. Et le roi, très inquiet de cette situation, dit à Richelieu, qui était son ministre à l'époque, son premier ministre, ce qu'on appellerait aujourd'hui son premier ministre, il faut me préparer un édit contre le duel. Richelieu lui dit, mais si, vous en avez déjà des dizaines d'édits contre le duel. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas appliqués.
Ben voilà.
Alors, tenez ferme la main à ce que vos procureurs généraux et vos magistrats se font un honneur de ne pas les appliquer. Donc, et c'est là où il y a eu ce fameux...
L'affaire entre Bouteville, Montmorency-Bouteville.
Et des chapelles qui se sont battues devant la grille du Louvre en duel.
Je crois que c'est plutôt devant l'appartement de Richelieu.
Ou devant l'appartement de Richelieu.
Sur la place des Vosges,
Oui, pour narguer le cardinal, qui les a fait arrêter, condamner à mort. Et donc, les jeunes femmes de ces jeunes gens sont venues supplier le cardinal de... Une grâce. Et il dit dans ses mémoires, leurs larmes me touchaient beaucoup.
Oui.
Et lui-même, qui était quand même d'extraction noble, et très militaire, et très sensible sur cette question, en fait, il a fait toute cette politique anti-duel contre lui-même aussi. D'abord contre le sentiment qu'il avait pour ces jeunes femmes, pour ces jeunes gens, et contre son propre sentiment, mais il ajoute à la fin de son observation, un peu de sang en a épargné beaucoup.
Exactement.
Et ça s'est arrêté net.
Oui.
L'inflation des duels s'est arrêtée net. Donc en fait, il y a un moment où il faut que l'homme d'État prenne sur lui, même contre son propre sentiment, ce qui était le cas de Richelieu, et contre le sentiment que lui inspiraient ces jeunes femmes, et ces jeunes gens, pour qu'une décision quand même terrible, mais justifiée, impose et épargne beaucoup de sang. Donc, voilà, c'est ça le rôle du chef d'État.
Moi, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, de fait, il y a tellement de lois qu'on trouvera toujours la loi qu'il faudra. Le problème, ce n'est pas tellement la loi, ce n'est pas tellement la législation. Le problème, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la volonté politique. Et une volonté politique qui se traduit dans
les
faits. Oui,
puis les lois, vous savez, il faut faire confiance à l'imagination des avocats. Vous avez un proverbe italien qui est très beau. « Fatta la legge, trova l'inganno ». Quand la loi est faite, on trouve le moyen.
Oui.
Et alors, on la regarde et on compare toutes les lois et on dit « Mais comment vous allez l'accommoder, cette loi, avec la précédente ou avec celle qui est en préparation ?» Vous n'y arrivez pas. Donc, en définitive...
C'est comme avec les armes. On invente une arme et puis on invente la riposte, évidemment. Oui, bien
sûr. Je pense qu'il faut surtout abandonner cette idéologie
France va très mal pour des raisons essentiellement politiques et encore plus que morales.
Mais ouais. je J'ai l'impression.
Je pense que vous partagez mon point de vue.
Oui, oui, mais ça, c'est vrai.
C'est...
Si chacun fait son métier, cette célèbre formule du général, qui n'est pas mon auteur préféré, quand il dit un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner.
Oui, vous avez raison, bien sûr. Et un juge, c'est fait pour juger.
Mais si le postulat, c'est défendre ou réinsérer l'agresseur...
Ah oui, je pense que la philosophie de Badinter a été catastrophique pour les institutions françaises.
On a du recul maintenant.
Il y a eu une inflation de cette philosophie. Badinter était un avocat. Bon, il avait des réflexes d'avocat. Et donc, il était forcément pour la défense. Et il a multiplié les arguments en faveur de la défense. Mais c'est pas ça, la justice. Moi, je suis un avocat, je suis pour la défense. Je ne suis pas pour la poursuite, je suis pour la présomption d'innocence, c'est tout ce qu'on voudra. Mais le métier de juge est un métier qui doit s'exercer, en toute liberté, en toute souveraineté, avec les lois comme moyen, c'est vrai.
Ah oui, comme outil.
Comme outil. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il ne peut pas s'exercer à côté des lois, sinon on serait perdu. C'est pas à l'intuition que ça se fait, alors qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup à l'intuition. Ça se fait à l'intuition ou à la renommée, et ça, c'est très mauvais.
J'ai une question à votre attention, Jacques, d'un auditeur. Quel est le parcours à suivre pour devenir magistrat? Existe-t-il une nuance entre un juge et un magistrat?
Alors, le parcours, normalement, c'est la faculté de droit, puis l'Institut d'études judiciaires, et puis l'École nationale de la magistrature qui est à Bordeaux. Mmh. Alors, avant, on fait un certain nombre de stages qui peuvent être, et dans le cours de l'École nationale de la magistrature, qui peuvent être extrêmement intéressants. Stages au parquet, chez le procureur de la République, pour l'autorité de poursuite. Stages à la magistrature assise, c'est-à-dire celle qui rend les jugements. Stages chez des avocats. On les envoie aussi faire un tour en prison pour qu'ils voient
ça
un peu...
Ça leur ferait beaucoup de bien.
Pour qu'ils voient un peu comment c'est. Mais en fait, là, c'est un peu faussé parce qu'il faudrait être un vrai détenu et avoir le vrai rôle,
le
vrai régime du détenu pour comprendre un peu. Et puis, tout ça, c'est... Mais en fait, tout ça est très bien. Sur le papier, tout est très bien. Ce qui manque peut-être, c'est une perception de la réalité.
Une fibre.
Quelque chose qui les mette en contact.
Une structure d'esprit.
Avec des vraies réalités sociales, familiales, entrepreneurs d'entreprise, etc. Et ça, on l'a pas même. C'est pas des stages qui sont en place. C'est une formation profonde. Et puis, il faut une formation générale qui n'existe plus, malheureusement, que donnent les humanités, parce que il faut un peu de philosophie, parce que le jeune magistrat, c'est pas un vieux magistrat. Le vieux magistrat, il a une expérience, il a vu beaucoup de choses, etc. Le jeune commence, et il faut bien commencer. Et donc, quand on commence, on ne peut avoir que l'expérience des siècles précédents, l'expérience des sages d'avant. Et là, il y a toute une... C'est ce qu'on appelait avant la culture générale qui donne ça. Et ça, ça a été quasiment supprimé.
Y a-t-il une vocation?
Il n'y a peut-être pas... Je ne pense pas que ce soit une vocation au sens... La vocation comme la vocation religieuse qui est un appel. Mais il y a une prédisposition. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui aiment ça. Et qui ont le sens de la justice innée. Tout le monde a un peu le sens de la justice innée. Vous savez, chez les femmes, moi j'ai connu beaucoup de jeunes filles qui se préparaient
à la magistrature.
À la magistrature, et elles voulaient tout d'abord être juge des enfants, et puis ensuite elles voulaient être juge d'instruction, et puis ensuite elles voulaient être procureur. Parce que il y a quelque chose de plus exigeant au sujet de la vérité. Mais tout ça est très bien. Mais ça ne suffit pas. Enfin, il faut, ça, c'est vrai. Ça fait partie du fond de la vie du magistrat. Mais il faut une formation. Et là, rien ne remplace ce qu'on appelait naguère les humanités, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la culture générale, c'est-à-dire la sagesse grecque, la sagesse latine, la sagesse de l'Ancien Testament, enfin, tout ce qui est le fond de nos traditions, Rome, Athènes, Jérusalem, dans lequel la justice a une immense place et qui apprend à connaître et à comprendre un peu ce qu'est la justice. Moi, je me souviens avoir plaidé devant une juridiction à Paris, la première chambre de la cour d'appel, qui avait derrière elle une immense tapisserie qui représentait Daniel confondant les mauvais juges à propos de
Suzanne. Ah oui, les vieux.
Et
les,
j'ai
les vieux libidineux.
Et j'ai commenté cette tapisserie en demandant à la cour de se retourner pour la regarder. Et j'ai senti que je leur apprenais quelque chose et qu'ils se demandaient.
Ils ne savaient pas.
Et qu'ils ne savaient pas, mais qu'ils se demandaient c'est quoi. Et, enfin, ils sont là.
L'histoire de
Suzanne. Ils rendent justice devant cette tapisserie. Et personne ne semble savoir ce que c'est. Alors que c'est. Évidemment, Daniel a confondu les mauvais juges parce qu'il a montré leur contradiction. Et donc, c'était une question de moyen de preuve. Et c'était une question de preuve. Et il a confondu les mauvais juges parce qu'en fait, ils avaient fabriqué un procès à cette chaste Suzanne qu'il convoitait à cause de sa beauté, qui s'était refusée à eux. Et comme elle s'était refusée à eux, ils avaient dit qu'elle avait cédé à quelqu'un d'autre. Et ils avaient inventé un adultère pour l'amener au tribunal. Et tout le monde y avait cru, y compris le mari. Il a fallu que Daniel dénoue l'affaire en montrant comment ils avaient menti, et en les confondant devant tout le monde.
On pourrait penser un peu aux enseignants et la pédagogie, là où ça ne s'apprend pas difficilement. J'ai des messages. Donc nous avons un petit Bobino. Stéphane, merci pour sa visite.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, un auditeur, bonsoir. Vous dites à propos de l'affaire Liana que la justice manque de moyens. Mais d'un autre côté, vous faites état de sa redoutable efficacité contre les paysans récalcitrants. On pourrait aussi citer leur zèle et leur rapidité contre un candidat nommé Fillon ou encore des squatteurs installés chez un magistrat. N'y a-t-il pas plutôt un sens des priorités très particulier, bien courtoisement ?
Si, cet auditeur a raison.
On en a parlé un peu.
Et oui, c'est comme ça qu'on constate ce qu'on appelle pudiquement des dysfonctionnements qui sont en fait de grossières injustices. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, c'est déjà dans La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable.
Les jugements de cour
feront blanc ou noir. Alors quand vous êtes puissant, normalement, un vrai juge, c'est celui qui rend la justice sans exception de personne, comme dit Saint Paul. Ben, c'est le modèle de Saint Louis. En fait, Saint Louis reste le modèle parce que Saint Louis écoutait les plaintes de tout le monde et tranchait en sagesse et en justice après avoir écouté l'un et écouté l'autre. Et sans avoir une balance préalable pour l'un ou pour l'autre.
Et c'est autre. Ça, c'est une auditrice. Merci infiniment pour votre émission. Que pensez-vous de ce magistrat qui est mort défenestré ? Visiblement, il était sur un dossier concernant le maire de Saint-Étienne. Merci pour votre réponse.
Ben ça, je ne peux pas penser parce que moi, je ne pense aux affaires que lorsque. J'ai les éléments du dossier. Mais en fait, l'affaire me paraît suffisamment grave pour être symbolique. Et on a vu et on voit en France des exactions contre des magistrats ou des hommes de loi, comme on a vu en Italie. En Italie, la justice s'est fait respecter parce qu'il y a eu des morts. Hein,
oui, bien sûr.
Et dans la lutte contre la mafia, il y a eu vraiment des morts. Et ils sont allés jusqu'au bout de leur devoir. Donc, c'est une mission qui peut être héroïque. Et moi, quand je vois ça, ça me rappelle l'excellent Léon Bérard, qui fut, pas garde des Sceaux, mais qui fut ministre des Affaires étrangères, et puis ministre de l'Éducation nationale. Et Léon Bérard, quand on lui avait dit un jour qu'un ambassadeur s'était fait défenestrer, il avait dit « Ah, enfin !» Ça rendait l'aide de noblesse au métier. Oui, oui. Je ne dis pas ça pour ce pauvre magistrat. Hein. Oui.
Très bien. Alors, continuons sur cette affaire, mais dans le pouvoir législatif. Vous qui êtes corse, qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui est en train de se préparer et qui va modifier la Constitution et donner à la Corse une autonomie interne les Jacobins de vieille république sont vent debout, les progressistes et les modernes sont pour. Je crois que les Corses sont plutôt
hésitants, parce qu'en fait, moi j'ai peur qu'on transpose en Corse les mots de l'État républicain français.
Exactement.
Et ça, c'est pas bon. Que la Corse ait une autonomie, ça me paraît absolument nécessaire, comme ça serait vrai pour la Provence, pour l'Alsace, pour toutes les provinces de France. Il y a la Bretagne, le Nord, il y a vraiment des particularités qui font qu'elles devraient être reconnues, parce qu'elles constituent le fond même de la région, de la province, des us et coutumes du lieu. Et donc ça devrait être reconnu. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de transposer à l'échelle de la région Corse les mots que nous avons à l'échelle de la région France.
Exactement.
Et ça ne sert à rien.
Lois de décentralisation transposent au niveau local l'esprit
Alors,
partisan.
Je suis partisan d'une certaine autonomie de la Corse. Je considère que sur le plan de judiciaire, par exemple, à l'expérience, c'est très difficile d'avoir un pouvoir judiciaire corse. Il faut un pouvoir judiciaire extérieur. Tout ce qui a été en Corse bon sur le plan de l'ordre public et de la paix générale est venu de Paris. Le seul qui ait vraiment été attentif à ça, c'est Napoléon III. Et il faut lui rendre hommage. Il a extirpé la vendetta, qui était un mal endémique de la Corse et qui est en train de ressurgir aujourd'hui à une échelle absolument terrifiante, quoi. D'ailleurs, vous regardez tous les films qui sont d'ailleurs assez prenants sur la Corse aujourd'hui, qui sont très à la mode, vous voyez que c'est une affaire de règlement de compte et de meurtre.
Dis, tu le vengeras.
Oui, donc, je suis assez de cette maison et cette famille pour le comprendre. C'est quelque chose de très fort. Et il faut une autorité extérieure très forte aussi, qui comprenne, mais qui aussi extirpe. Et c'est ce qu'avait fait Napoléon III de façon très efficace. Mais il avait fallu vraiment une puissance et une justice impériale. Hein. Ça, je pense qu'on l'aura pas. Ou alors il faudrait à l'intérieur de la Corse un véritable héros, un Pascal Paoli d'aujourd'hui. Mais je ne vois pas se profiler. Et d'ailleurs, il finirait peut-être martyr. Donc, c'est vraiment...
Est-ce que ce n'est pas un risque aussi, maintenant, d'étant donné le cadre républicain dans lequel on vit, c'est-à-dire que la France est accablée de lois, de normes, tout ça édité par un État central qui vit sur son accumulation de textes, d'ordres, de directives. Le risque, c'est qu'à partir du moment où on sort de ce schéma, l'ensemble se délite.
Oui, mais ça, je crois qu'il ne faut quand même pas hésiter à faire une vraie décentralisation.
Oui, c'est ça. C'est l'enquête sur la monarchie.
Est-ce
si vous voulez la
vraie
liberté,
décentralisation, je ne sais pas.
Oui.
Mais la vraie décentralisation, ça suppose de rendre le pouvoir à ceux qui ont qualité pour les exercer. Donc en fait, pour une région comme la Corse, ça serait vraiment de voir si les villages peuvent être gouvernés par les gens du village avec une liberté, une autonomie. Mais ça, ça suppose une véritable autorité centrale qui surveille, qui accorde, qui tempère, qui renforce quand il le faut. Et donc, c'est une vraie politique. Et une vraie politique au sommet de l'État.
Oui.
Et je
ne
la vois pas aujourd'hui, je ne la vois pas se dessiner.
On a partout des systèmes partisans.
On a l'impression qu'ils font ça pour faire plaisir à des manifestations, puis pour aller dans le sens de... Vous disiez que les progressistes, pour aller dans un certain sens qui serait normalement un sens de l'histoire, entre guillemets, auquel je ne crois pas du tout.
C'est tragique parce qu'on n'en sort pas de cette difficulté. Ce que Maurras avait montré admirablement dans son enquête sur la monarchie, c'est que si vous voulez la liberté et la décentralisation, il faut une autorité au centre légitime, resserrée sur elle-même, mais extrêmement efficace, extrêmement forte. Et ça, c'est ce que l'on n'a pas.
Ça, on ne l'a pas. Maintenant, interrompre les processus régionaux et locaux qui réclament une véritable liberté, c'est pas bon non plus. Je pense qu'il faut les laisser, mûrir, et les aider à mûrir. Mais il faut pas se faire d'illusions. Hein.
Ça prouve qu'en France, on a un vrai, vrai problème institutionnel. Alors venons-en maintenant aux élections présidentielles. Vous savez combien on a de candidats ?
Non, je ne sais pas du tout combien il y a de candidats.
Combien il y en aura ?
Et combien il y en aura ? Aujourd'hui, on a dépassé les 35.
Moi, je les admire parce qu'en fait, vouloir prendre
aujourd'hui
ce bébé dans l'état où il est,
il
faut être courageux, hein, franchement.
Oui.
Bon. Mais la concupiscence, on peut en plus... Ce nombre, ils sont 35, vous me dites ? Et ils ont les signatures ?
Ah non.
Ils vont s'y mettre. Et ensuite, ils vont rivaliser. Et ils vont expliquer que c'est à l'autre de s'effacer si, pour que le parti puisse passer.
Mais sur les 35, il y en a pas mal qui n'auront pas les 500 signatures.
Non, mais enfin, c'est tragique, quoi. En plus de ça, je ne vois pas, à l'heure actuelle, vous êtes candidat à la présidence de la République, vous arrivez à la présidence de la République, qu'est-ce que vous faites le lendemain ?
Des miracles.
Macron avait dit qu'il n'y aurait plus de pauvres dans la rue, qu'il n'y aurait plus d'assassinats, qu'il n'y aurait plus de... Rien ne s'est fait, absolument rien. Moi, je ne suis pas sûr du tout à l'heure actuelle que même si quelqu'un de bien... arrivé au pouvoir, il aurait demain les possibilités de commander, ne serait-ce qu'à Bercy. Bercy est entre les mains de 300 ou 400 énarques, qui sont d'ailleurs payés et surpayés, et qui tiennent le système complètement. Personne ne peut rien. C'est eux qui savent comment gérer la dette, c'est eux qui savent comment prélever l'impôt, Et la même chose pour l'éducation nationale. La rue de Grenelle, elle est dirigée par des commissions, plus ou moins sous influence maçonnique. C'est eux qui font les programmes. C'est eux qui sont les gardiens de l'esprit républicain. C'est eux qui... Et jamais personne, ni Bérou, ni Robien, aucun ministre de l'éducation nationale, quand ils ont été un peu sérieux, n'a réussi à faire quoi que ce soit pour redresser la barre.
Donc, j'entendais que c'était Monory qui avait bien marqué son temps.
Oui, oui. Oui, mais enfin, c'est vieux. Hein.
Ah ben oui, bien sûr.
C'est vieux. Je crois qu'il y a une illusion considérable. Et il en est de même, d'ailleurs, dans pratiquement tous les domaines. les choses n'appartiennent plus. On a un État qui est prolifique, qui est complètement omnipotent et ventripotent, mais il n'a pas la main. Voilà. Je pense qu'il n'a pas la main. Oui.
Moi, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Je ne suis pas du tout un admirateur de Gaulle, mais je me souviens de hauts fonctionnaires qui me disaient, enfin, dans le bureau de mon père, qui était très anti-gaulliste, mon père, bon, et ces hauts fonctionnaires qui l'étaient moins, disaient, mais vous savez quand même, depuis qu'il est là, dans l'État, on exécute. Hein.
Oui, oui.
Et on sait que si ça remonte, et que ça remonte là-haut, il y aura une réponse, et la réponse sera telle qu'on a intérêt à exécuter. Donc en fait, il y a des gens qui impressionnent, et je me souviens de Jean Royer, dont on ne se souvient plus.
Oui, Jean Royer, Royer oui.
Quand il ancien a été,
maire de Tours.
Quand
oui.
il a été ministre des Postes et Télécommunications, ministère dont il a démissionné quand il s'est présenté à la présidence de la République parce qu'il ne voulait pas cumuler les deux choses, ce qui était un scrupule...
Qu'il honorait,
mais enfin qui était un peu idiot parce qu'il s'est privé quand même de moyens. Eh bien, quand il a quitté son ministère, il est sorti, je me souviens, j'étais allé avec lui, il avait tout son personnel jusqu'aux standardistes les plus modestes étaient là, ils sont levés, ils ont applaudi.
Ah,
et donc, en fait, il avait, par sa personnalité, il avait redonné une âme au ministère des Postes et Télécommunications.
Il faut le faire.
Mais en fait, il avait réussi. Parce que, d'abord, il s'intéressait à chacun, au travail de chacun. Et il voulait que ça marche. Comme il voulait que ça marche à la mairie de Tours, il voulait que ça marche au ministère. Bon. Et donc, vous avez des gens qui savent faire ça.
Oui, oui, oui.
Et qui sont des
et ce qui leur donne chefs, une sorte de, ce qui leur donne une sorte de légitimité. Parce que la légitimité démocratique, en réalité, ne suffit pas. Il faut une légitimité qui vient d'une...
Et je me souviens de Royer, précisément, qui en plus était un excellent orateur. Il m'avait dit un jour à Tours, vous savez, j'avais tout pour être un grand chef fasciste, sauf le culot.
Oui.
Parce que je trouvais que c'était un peu ridicule, quoi. Et puis que j'étais pas fait pour ça. Je voulais servir, je voulais pas. Mais en fait, il suffit d'avoir à un certain moment une paranoïa qu'on ne maîtrise plus. Et à partir de là, propre, on peut utiliser tout son capital d'énergie et de compétences pour arriver là où les autres n'arrivent pas. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème.
Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que sera la légitimité d'un homme qui sera élu par une partie des Français contre une autre, dans une atmosphère de quasi-guerre civile? Parce que c'est ça ce qui nous attend l'année prochaine. Quelle pourra être son autorité? Ça pose vraiment une grave question pour l'avenir de la France. Et il est évident que cette ambiance politique a des conséquences dramatiques. On parle de la démographie française, qui était pourtant autrefois l'une des meilleures d'Europe. Ben, elle se dégrade parce que les jeunes ménages ne veulent pas faire d'enfants, étant donné les circonstances. Je pense que ça joue énormément, j'en suis convaincu. Et puis bon, il y a la démoralisation générale de la société. Plus personne ne veut assumer de responsabilité.
Puis si vous écoutez, si vous commencez votre journée avec France Info dans votre salle de bain, et que vous la terminez avec France Info dans votre
salle de bain,
et que vous avez passé toute la journée. Alors, quand vous n'avez pas les ennuis du monde entier, vous avez vos propres ennuis personnels et professionnels. Et après, vous revenez, et vous avez encore ça, et vous avez toutes les catastrophes qui sont passées pendant que vous occupiez de vos propres catastrophes, qui vous retombent dessus. Et après, on dit, les Français ne font pas d'enfants. Bah, il faudrait qu'ils aient le moral. Hein.
Bien sûr.
Les pauvres, ils n'y ont plus du tout. Hein. Donc, alors, c'était la formule de Napoléon quand on lui montrait tous les morts d'Austerlitz. Une nuit de Paris refera tout ça.
Oui, oui.
Mais en fait, la nuit de Paris...
Je n'aime pas du tout cette phrase, personnellement. Je la trouve détestable. D'un cynisme gaullien.
Comme quand il disait à Metternich, j'ai 1 million d'hommes de rente.
Oui, c'est ça. Oui. C'est pas possible de dire des phrases pareilles. Oui. Mais alors, la gravité de cette affaire, c'est que ben, nous sommes devant une immigration dont tout le monde convient qu'elle est... qu'elle submerge tout et que plus personne ne contrôle, parce que les chiffres, personne n'est allé les contrôler. personne n'ira, moi je peux vous le dire pour avoir été en Seine-Saint-Denis, et de mettre, d'y être allé profondément, je ne conseillerais pas à nos dames députées ou sénatrices d'aller se promener à partir de, même en plein jour, hein, dans certaines parties du 93. C'est impossible. Et en réalité, personne ne connaît la population du 93, mais il n'y a pas que le 93. C'est la même chose dans le Rhône, c'est la même chose du côté de Marseille. Plus personne ne contrôle rien. En réalité, concrètement, plus personne ne contrôle rien, comme on ne contrôle pas le trafic, ni l'activité de tous ces gens-là. Plus personne ne contrôle. Et c'est une illusion de la part des bourgeois et de ceux qui nous gouvernent, parce qu'eux sont gardés, ils ont des gendarmes, ils ont des policiers, et ils sont dans des appartements qui sont encore à peu près sains. Mais je crois qu'on va vers un drame énorme, énorme, énorme. Et que personne ne mesure.
Il faudra, et peut-être qu'à ce moment-là, puisse prendre vraiment conscience de ce qui se passe. Mais comme dit l'autre, il ne faudrait pas que ce soit trop tard, quoi.
Oui.
Sinon, vous avez, ce qui est toujours le cas dans ces situations, le dernier recours, c'est la force armée.
Ça viendra peut-être.
Et parce que quand plus rien ne va plus, on va se mettre à l'abri du policier, du gendarme ou du militaire, de toutes les façons, celui qui a une arme. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est lui qui a raison. Enfin, je veux dire, c'est lui qui a l'instrument de la paix, parce que l'instrument de la paix, c'est l'arme.
Oui.
Et donc, est-ce qu'on en viendra là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne pense pas. Mais c'est peut-être une espèce de
vous savez, en
caractère inéluctable.
En 1958, vous vous en souvenez? Moi, j'habitais rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et je raconte toujours que j'ai vu, de mes yeux vus, les sergents de ville, vous savez, avec leur petite capeline, qui tournaient le dos aux voitures ministérielles, à Gaillard et à Flalin. Et les gardes mobiles qui étaient sur l'avenue Marigny faisaient titi-tata avec leurs mousquetons. Et ce matin, je rappelais dans le dialogue que j'avais avec Paul-Marie Couteau, que 1958 avait été pas simplement une révolte en Algérie de la part de pieds noirs qui se sentaient abandonnés et de musulmans qui voulaient rester français, c'était également en France, on respirait, les gens étaient heureux parce que il y avait presque un souffle spirituel. Enfin, c'est le sentiment que j'ai gardé. J'avais 13-14 ans et je manifestais sur les Champs-Élysées. Je me suis fait arrêter d'ailleurs pour la première fois dans ces circonstances. C'était stupéfiant parce que les Français étaient heureux de voir émerger une attente, une espérance, quelque chose qui les sortait de l'ordinaire. On allait enfin sortir de cette mécanique républicaine où c'était perpétuellement l'abandon, la défaite. Et ça a été brisé. C'est ce que je rappelais à Paul-Marie Couteau, qui n'était pas très...
Et c'est vrai qu'à l'époque, vous avez raison, à l'époque, d'ailleurs, l'appel à De Gaulle a beaucoup joué à cause de l'appel au général.
Oui, bien sûr.
Parce que c'était un homme habillé en général, comme dit mon patron.
Oui.
Comment voulez-vous qu'un homme habillé en général allant à la messe et élevé par les jésuites du temps passé.
Oui. Et qu'il y avait une sorte de légitimité
donc
historique.
Donc voilà, alors, et en plus, il y avait... Et ça... Moi, je me rappelle... Enfin, j'ai des souvenirs très proches des vôtres, parce que j'étais pas au Faubourg Saint-Honoré, mais mon père, à l'époque, était député. Et je me souviens de... Félix Gaillard, président du Conseil.
Oui, Félix Gaillard,
qui
oui.
se présentait à l'Élysée, qui montait les marches de l'Élysée avec le gouvernement, et la garde républicaine qui a tourné le dos.
Tout à fait.
Toute la garde républicaine a tourné le
dos. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais moi j'ai vu les sergents de ville tourner le dos.
À ce moment-là, moi je me souviens de mon père avait raconté ça. Il dit, mais c'est fini, quoi.
Oui.
C'est fini. À ce moment-là, Coty s'est dit, président de la République en exercice, s'est dit, bon, mais il faut appeler quelqu'un, hein, parce que ça ne va plus du tout. Et donc, ils ont appelé De Gaulle, dont, qui était complètement oublié. Ce qui fait que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui...
Ben, c'est le seul complot qui a eu lieu le 13 mai. En réalité, les autres complots n'ont pas abouti. Mais d'ailleurs, ceux qui ont fait le complot, je m'en souviens très bien, c'était Delbecq, c'était Soustel. Ensuite, ils ont été écœurés parce qu'ils ont très bien compris que De Gaulle n'avait fait cette manœuvre que pour récupérer le pouvoir à son profit et qu'il n'avait pas du tout l'intention de répondre à cette espérance nationale. Et en fait, il voulait le pouvoir pour lui et donc il en a
mais
fait...
Mais là, il y a eu quelque chose dans le sentiment, comme vous dites, il y a eu quelque chose en France qui est passé de beaucoup la question de l'Algérie et qui était « on n'en peut plus, quoi ».
Oui, exactement.
On n'en peut plus. En fait, la France
se remontait
de la Deuxième Guerre mondiale, comme elle sait toujours le faire, en 13 ans, 45-58, elle avait refait une substance économique prodigieuse. Et ces Français qui travaillaient, qui gagnaient de l'argent et qui voulaient être vraiment un grand pays, en avaient marre de ces gouvernements qui changeaient tous les 8 jours.
Et qui trahissaient, parce qu'il y avait l'affaire des fuites.
Et qui faisaient n'importe quoi. Et donc, ça a été un gigantesque ras-le-bol. Et De Gaulle a eu le génie de capter ce ras-le-bol.
Oui, c'est ça. Avec un cynisme, je vous ai compris, vive l'Algérie française, alors qu'intérieurement, il n'en croyait rien. Et qu'il allait profiter pour se faire une constitution pour lui. Et les seuls articles de la Constitution qui sont encore lisibles aujourd'hui, c'est les articles concernant la présidence de la République, parce que ce sont des articles royaux. Il les a faits pour lui. Mais il les a pas respectés. Il a en particulièrement dit que le chef de l'État est le garant du territoire national. Or, l'Algérie faisait partie du territoire national, quel que soit le statut. Ils avaient même un statut départemental.
Pour raconter une anecdote de ce temps, je me souviens, il y avait à la maison un ami des parents, qui était un bon Corse, M. Xavier Stéphanie. Peut-être, lui il est mort maintenant, mais il y a peut-être des petits-enfants qui m'écoutent là. Et c'était un homme délicieux, il était secrétaire général de la présidence de la République. Mais la présidence de la République, la quatrième. Et alors, il avait déjeuné avec Michel Debré, qui lui avait exposé ce qu'il voulait faire dans la nouvelle constitution de la présidence de la République. Il me disait, mais ce type relève de la douche froide. D'abord, il n'a rien mangé au déjeuner, il n'a fait que parler, alors que dans un déjeuner, normalement, on déjeune. Bon, on ne fait pas que parler. Et en plus, vous imaginez ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on travaille. Mais on n'a jamais travaillé à la présidence de la République. Notre force, c'est qu'on ne travaille pas. Et à partir de ce moment-là, on a un jugement extrêmement clair sur les événements. Et on peut rendre des services. Vous savez, Clémenceau disait, la présidence de la République, c'est comme la prostate. C'est un organe généralement inutile, mais qui peut être dangereux. Mais nous on n'est pas inutile parce que... Mais surtout, il faut qu'on soit engagé de nulle part pour pouvoir avoir...
Tout recevoir.
Tout recevoir. Bon.
Oui, oui.
Et donc, il était extrêmement négatif sur ce que Debré... Mais Debré avait une vision à la fois monarchique et jacobine du pouvoir.
Oui, je lui n'aurais jamais accepté que le comte de Paris puisse prendre...
Son modèle, c'était Colbert, en fait.
Oui.
Mais Colbert sans la maîtrise de Louis XIV.
Sans Louis XIV, oui. Et il se pensait capable de faire ça. Mais comment cet homme a pu faire pour avaler les couleuvres qu'il a avalées? Parce que on se souvient de ses discours pour l'Algérie française. Hein,
et comment
il a été amené à se renier. Comment tous ces hommes ont été amenés à se renier. Quel cynisme. Enfin, moi, c'est quand même un déshonneur.
Mais alors, on raconte que justement... Comme un jour, il était excédé par Edmond Michelet, qui était tout à fait dans la ligne du général et qui voulait l'Algérie algérienne et qui se battait contre toutes les Algéries françaises. Et Debré n'en pouvait plus. Et Debré dit un jour à De Gaulle, enfin, mon général, je ne peux plus travailler avec Edmond Michelet. Et De Gaulle lui dit, mais si vous ne voulez plus travailler avec Edmond Michelet, vous pouvez toujours démissionner, Debré.
Voilà, c'est ça.
Et ça, c'est souverain, si on peut dire.
Et vous aviez des émissions remarquables, Hilaire, sur l'Algérie. Quatrième et dernière,
Non, on va continuer jusqu'aux événements actuels.
Ah,
Non, mais je tenais beaucoup à faire avec mon ami Jean Larmande.
Oui, alors c'est le mardi, le président. Tous les 15 jours.
C'est mardi tous les mois, en fait.
C'est tous les mois.
Parce que j'alterne avec des mardis où on fait de la politique actuelle.
Ah, très bien. Et,
mais avec Jean Larmande, qui est le président du cercle algérianiste d'Île-de-France, de Neuilly et d'Île-de-France.
À 21h30.
Et Jean Larmande, je l'ai connu au moment des événements d'Algérie. J'ai connu son frère, enfin sa famille, et lui, il est resté évidemment très fidèle à ses convictions. Il a fait partie des gens qui ont été rapatriés en 1962, alors qu'il était étudiant à l'université d'Alger. Et alors lui, il se souvient très très bien des derniers moments de l'Algérie française.
Il a repris depuis les origines.
Alors là, je lui ai demandé de dresser un tableau depuis les Numides. Voilà, depuis Jugurtha jusqu'à... on va poursuivre. Là, pour le moment, on en est à la fin de Napoléon III et au début de la Troisième République. Mais ce qu'il y a de navrant,
c'est... Vous savez, il y a des choses qui sont très... très frappant, je vois, France catholique a sorti un numéro spécial sur l'Algérie chrétienne.
Ah oui.
Qui connaît un succès, mais je le dis aux auditeurs, vous pouvez encore en commander, mais oui. Il faut vous dépêcher. C'est 23 rue de Varize, c'est juste à côté d'ici. 23 rue de Varize, 75-016. Et en fait, c'est impressionnant ce que tout ce territoire-là, toute cette Afrique du Nord, était le réservoir de la jeune chrétienté.
Oui.
Oui.
Et de la chrétienté intelligente.
Les berbères étaient...
Trop intelligentes, d'ailleurs.
Les berbères étaient chrétiens.
Ah oui, les Kabyles, les berbères, oui, oui.
Les berbères étaient chrétiens.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, c'est... Alors, il y en a... Je crois qu'il y a un renouveau chrétien par en dessous, catholique, mais essentiellement protestant, parce que...
Les évangélistes sont très...
C'est plus facile, donc... En Asie, c'est la même chose, parce que là, il suffit de pratiquement de se réunir en tout petit groupe, et puis on lit la Bible, et le catholicisme, c'est une structure, donc c'est plus difficile.
Mm.
Mais cela laisse... moi, ça me laisse songeur. Quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup au père de Foucault, et je m'intéressais surtout, d'ailleurs, particulièrement au martyr du Vietnam. Et comme on parlait à l'époque de l'affaire d'Indochine. Mais c'est quand on pense à l'effort qui a été fourni par les missionnaires, par les militaires d'une certaine manière, par même les administrateurs plus ou moins maçonniques, quel gâchis, de perdre tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et, que ce soit en Algérie, en Afrique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune trace. L'Afrique est devenue, avec le Focard et puis le gaullisme, est devenue ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire un moyen de revenir, de se faire des valises de billets. Parce que ça n'a plus été que ça. Et moi, je trouve ça pitoyable. Et Macron est dans cette ligne-là. Il s'est amusé avec les chefs noirs, et ça, c'est pas une chose qu'il faut faire.
C'est surtout qu'ils n'ont pas apprécié.
Ils n'ont pas apprécié. Il a toujours fait son malin, ce garçon. Il ne connaît rien. C'est vraiment affligeant. Et là, il essaye de. Alors, on finit là-dessus. Si on a quelques, on a encore quelques minutes.
Trois minutes.
Oui. C'est inquiétant de penser que Macron s'imagine qu'il mène la politique étrangère, non pas seulement de la France, mais du monde. Mais du monde entier.
Non, ça, je crois qu'il faut abandonner cette idée. Personne ne la mène, d'ailleurs.
Oui. Non, personne.
Personne ne la mène.
Personne.
Même pas Trump.
Même pas Trump. Non, non. Bon. Même pas Trump.
Mais, et on voit quand même que... Trump a essayé quelque chose contre les Mollahs. En fait, les Mollahs, ils ont résisté, hein.
Bien sûr.
C'est quand même terrible.
Et c'était pas une bonne chose.
Non.
Et c'était pas une bonne chose. C'est comme quand les Américains ont quitté l'Afghanistan.
La population.
C'était pas bon.
On parle de tout sauf de la population.
Mais bien sûr. Bien sûr. Mais il veut se débarrasser du problème. Ça paraît évident, oui. et en garantissant les intérêts américains, parce que c'est la seule chose qui l'intéresse, et se réserver son territoire à lui.
Enfin, nous, je pense que nous, les Français, alors, bon, évidemment, les perspectives institutionnelles et médiatiques ne sont pas très bonnes, mais, il y a en France un désir, un besoin de se retrouver entre Français pour s'occuper des affaires françaises.
Oui.
Et ça, je pense que... j'en ai beaucoup parlé avec certaines personnes engagées en politique, dont notamment une, je parle d'une femme, qui a un grand nom, et qui me disait, moi j'ai pleuré en rencontrant les Gilets jaunes.
Bien sûr.
Parce que franchement, je me suis aperçu de quelque chose dont je pensais que je le savais, mais je n'avais pas vu comme ça.
Oui, ouais. Oui.
Et donc, il y a vraiment... mais je crois qu'il nous faut des hommes et des femmes politiques qui ont pleuré.
Oui, et qui ont du sens.
Qui ont pleuré, qui ont du sens, et à ce moment-là, ça ira peut-être mieux, quoi.
Mais voilà, je crois que c'est la fin.
Oui. Eh bien, une minute donc pour saluer nos auditeurs et nous nous revoyons, je pense.
Alors,
en
je vous
juillet.
Demande pas de pleurer, mais je vous demande quand même d'avoir suffisamment de cœur pour qu'on se rende compte qu'il y a des misères chez nous dont qu'on ne mesure pas, quoi. Qui font pas la une des journaux, et parce que généralement c'est ce que Bossuet appelait les pauvres honteux, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent pas montrer leur pauvreté.
Bossuet cher à notre abbé Wartel. Voilà. Chers auditeurs, bonsoir. Vous venez d'entendre le libre journal de Jacques Trémollet de Villers, dirigé, assisté de Marie-Vonne, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 18 juin 2026, de 18h à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.